Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Et on continue Europe Soir Weekend avec Panorama, les débats de Panorama jusqu'à 20h. Ça y est, la huitième vague du Covid est dans nos pattes et voilà que le gouvernement agite le spectre de la quatrième dose pour les plus de 60 ans. Elisabeth Borne ne nous a pas encore annoncé un point hebdomadaire pour le Covid, comme ça a été le cas pendant longtemps, on s'en souvient, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans un instant, on va les voir, ces chiffres en détail, mais j'accueille Emmanuel Hirsch. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale, fondateur de l'Observatoire national éthique et pandémie, auteur de « Une éthique pour les temps de crise ». C'est une parution à venir aux éditions du CERF. Bonsoir à Stéphanie Bataille.
Bonsoir.
Comédienne fondatrice de l'association Tenir ta main qui soutient les familles dans leur deuil lié au Covid-19. Mais d'abord, Capucine Patouillet, ma chère Capucine, sur ces chiffres dont je parlais, où en est-on précisément ?
Alors, selon les derniers chiffres de Santé publique France dévoilés ce jeudi après-midi, la circulation du SARS-CoV-2 continue de progresser en métropole, alors que la situation tend à se stabiliser en Outre-mer. Avec plus de 55 000 nouveaux cas recensés au niveau national, le taux d'incidence a progressé de 22,1% en une semaine. Les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus touchées. Mais Santé publique France souligne aussi que ce sont les régions qui dépistent le plus actuellement. Le taux de décès dû au Covid est également en hausse sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec 279 décès constatés parmi les patients hospitalisés ou séjournant en établissement médical social au cours de la semaine dernière, contre 244 au cours de la semaine qui a précédé. Le troisième indicateur significatif de ce bulletin hebdomadaire, plus 24% de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 et plus 13% d'hospitalisation, soit 5834 patients au niveau national à la date du 7 octobre. Le bilan est alarmant donc, mais pas critique puisque le taux de reproduction, le fameux R, se situe lui aux alentours de 1,19, ce qui signifie que le virus circulerait moins au sein de la population. Alors grâce notamment à la vaccination, mais c'est l'occasion surtout de rappeler l'utilité des gestes barrières, dont l'hygiène des mains grâce au savon ou au gel hydroalcoolique, et aussi le port du masque dans les lieux fortement fréquentés. Un masque chirurgical diminue de 2/3 le risque d'infection et le FFP2 de 80%.
Merci de ces précisions, Capucine Patouillet. Alors quand on entend ces chiffres, Stéphanie Bataille, vous qui avez eu un deuil lié au Covid, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de votre papa, et que ça a été extrêmement difficile de le voir, vous nous l'avez narré, vous nous avez raconté tristement et on a été extrêmement triste avec vous. Quand ce chiffre de 279 décès apparaît comme ça, comme une statistique, c'est quand même terrible.
Mais ce qui est atroce, c'est qu'on ne parle que de chiffres, on ne parle pas de vie. Vous parlez très gentiment de mon histoire personnelle, mais je suis
là. Il y en a plein des comme ça.
Et il y en a avec l'association qu'on a montée avec Laurent Frémont qui s'appelle donc Tenir ta main. On a plus de 45 000 témoignages avec des incinérations immédiates. Je salue évidemment, par le biais de ce micro que vous voulez bien me tendre, Julie Grasset avec son association Cœur Vide 19 et évidemment Sabrina Salami qui s'est battue, qui a perdu son père et son frère dans une atrocité totale puisque c'est un droit de visite qui est interdit. C'est-à-dire que j'ai pas eu le droit un peu de voir mon père ou j'ai pas eu le droit de voir mon mari ou j'ai pas eu le droit de voir mon frère ou ma sœur. C'est, vous le verrez au dernier moment. Alors, tous ces chiffres que vous me dites, effectivement, ce sont des j'en peux plus des chiffres, moi, en vrai. On ne parle que de ça. On parle de, mais les chiffres, évidemment, sont
même
alarmants.
Même si on est là pour prendre la température, de savoir
c'est le cas de
ce
le dire,
qui se passe.
Bien sûr.
Mais
qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui ont le Covid? Est-ce qu'on va recommencer ces traitements absolument hallucinants, c'est-à-dire droit de visite interdit, enterrer à nouveau, interdiction de faire l'adieu au visage, enterrer nos morts tout nu dans des sacs en plastique? Je ne sais pas, je crois qu'on est vraiment on est au bout du bout, c'est la fin de la civilisation. Alors si je suis là ce soir, et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, Pierre, et en présence d'Emmanuel Hirsch, qui m'a énormément aidé lors de mon combat et du fait d'avoir été atomisé, surtout que j'ai pris toutes ces familles au téléphone, ce qui me paraissait normal, il n'y a pas eu du tout de cellules psychologiques, les familles sont complètement dépourvues, sont en état de choc, de sidération. Pour la plupart, il y en a qui ne peuvent plus retourner travailler, tellement c'était douloureux. On a eu des incinérations.
Et je précise que vous avez fait ce travail totalement, comme on appelle en anglais, from scratch, c'est-à-dire que vous êtes comédienne, vous êtes directrice de théâtre, mais vous êtes avant tout une citoyenne de cette planète, et vous avez fait des choses de bon sens. C'est-à-dire que vous avez décroché votre téléphone, vous êtes aidée d'amis qui ont bien voulu plaider votre cause, qui est en fait la cause
De nous tous.
Bah de,
et,
oui.
Et tout ça, c'était fait en fait de façon totalement rationnelle. Emmanuel Hirsch, quand vous entendez effectivement le combat de Stéphanie Bataille, que vous avez effectivement aidé, quand se profile une huitième vague, on a l'impression de dire huitième, douzième, quinzième, après on a l'impression que bon, ça rentre dans la routine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
D'abord, c'est un combat au nom de nos valeurs, les valeurs de la démocratie. Probablement, aujourd'hui, on a constaté 53 décès par jour. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Si on avait rendu mémoire, si on avait eu à un moment une solennité, comme ça s'est fait dans d'autres pays, pour rendre hommage aux victimes de la Covid-19, on a rendu hommage aux professionnels à juste titre, mais aussi aux victimes, peut-être que les gens comprendraient mieux que l'on meurt aujourd'hui de la Covid-19. La vraie question, c'est une question qui est très conjoncturelle, c'est qu'on s'est habitué. C'est-à-dire, c'est un espèce de fond sonore. Alors peut-être que on avive un petit peu avec l'émergence de nouveaux chiffres, on avive une certaine forme d'intérêt pour cette question. Mais il y a une compétition entre tant de malheurs dans le monde, entre tant de sollicitations. Aujourd'hui, vous avez la guerre, vous avez la précarité économique, vous avez tout ce qui se passe aujourd'hui au quotidien avec des manifestations pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a une telle rivalité, entre guillemets, c'est pas péjoratif, de grand d'urgence pour chacun d'entre nous, que les gens ont du mal à hiérarchiser en quelque sorte ce qui doit être priorisé. Et ça va être difficile pour le gouvernement.
C'est difficile quand vous avez la vie et la mort qui vous apparaît à
oui,
tout bout de champ.
La vie pour les gens qui aujourd'hui ne peuvent plus mettre de nourriture dans leur plat, la vie pour des gens qui ont le sentiment que la précarité, également la précarité, excusez-moi de ce terme, démocratique, est quelque chose qui avive les inquiétudes, les peurs en quelque sorte. Au nom de quoi aujourd'hui les instances gouvernementales, et je les attends, pourront nous donner confiance dans un certain nombre de démarches, notamment si demain on doit faire face effectivement à une montée en puissance de la pandémie qui nous oblige à des actes, j'allais dire, citoyens, de civilité, notamment en termes de protection, de port de masque, en termes de vaccination, mais déjà en termes de respect des personnes dans ce qu'elles vivent,
ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire, c'est que, pour reprendre une expression familière, c'est qu'on n'est pas aidé.
J'ai le sentiment qu'on est dans un contexte où tout le monde est assez désabusé et hiérarchise au quotidien. On fait un petit peu notre cuisine sans se rendre compte qu'il faut quand même aujourd'hui être conscient que la pandémie n'est pas que la Covid-19. Il y a une espèce de sentiment de pandémie omniprésent et qui s'exprime à travers un certain nombre de circonstances. Tout ça pour dire, et c'est là où je trouve que, je ne dis pas le combat, mais l'engagement de Stéphanie est important, il faudrait qu'on revienne à nos essentiels. Et en quoi les pouvoirs publics nous ont montré ce qu'était l'essentiel dans la lutte contre la Covid. On a eu un formidable engagement politique en disant on n'abandonnera pas sur le bord du chemin les personnes les plus vulnérables. Et c'est toute la fierté qu'on peut avoir en tant que démocrate d'avoir défendu cette situation. Mais je dirais maintenant, comment on va exprimer dans les jours, dans les heures qui viennent, nos essentiels. Un élément à prendre en compte, en Allemagne, le port du masque est devenu nouveau obligatoire. Si demain, on a des chiffres plus inquiétants qu'ils ne le sont aujourd'hui, rien ne nous permet de dire qu'il n'y aura pas une progression dans les chiffres. Est-ce qu'il y aura cette solidarité ? Et pour prendre le métro, j'observe qu'on est regardé d'une manière un petit peu vieux quand on porte un masque, comme si on était contaminant.
Continuons de le porter.
Voilà. Non pas continuons, mais reprenons peut-être aussi cette démarche, mais pas que cette démarche, c'est une démarche aussi de solidarité vis-à-vis de professionnels. Juste un dernier point. On oublie que beaucoup de professionnels aussi ont quitté leur activité professionnelle parce qu'ils n'ont pas supporté ce qu'on les a donné à vivre dans les choix politiques. Donc on est dans un contexte, à mon avis, très fragilisé et très fragilisant. Tout ça, on en a les uns et les autres conscience. Maintenant, comment faire face ? C'est avec des gens comme Stéphanie aussi, c'est-à-dire toute cette mobilisation associative, toute cette mobilisation des terrains, des territoires. Oui, peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un objectif.
Vous nous aidez à réfléchir. Vous en appelez, j'allais dire à nouveau, parce que j'ai l'impression que c'est sans cesse au gouvernement, au pouvoir public. Et je reprends ma question, Stéphanie Bataille, on n'est pas aidé.
On n'est pas aidé, je crois qu'il faut tous s'aider. Je crois que la vie est vraiment une chaîne. Alors, tous les sujets que vous avez évoqués, Emmanuel Hirsch, évidemment, avec les chiffres, la pauvreté, les gens sont au bout du bout. Il y a aussi quelque chose dont on oublie complètement et où il faut vraiment prendre conscience, c'est le réchauffement climatique. Parce que j'ai peur qu'un jour, on dise « passons à autre chose ». Quand aujourd'hui, on parle des morts du Covid, on nous répond « oui, c'est bon, c'est passé ». C'est-à-dire que tout est balayé très très vite, tout va beaucoup trop vite.
C'est le fameux « une information en chasse une autre ».
Exactement, alors excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser. Je veux dire, quand je vois déjà les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées, franchement, j'ai mal, je m'interroge. On a déjà les gens nous parlent déjà de Noël, nous sommes mi-octobre.
Moi, mes enfants me parlent de Noël, oui. Effectivement, je leur dis, c'est pas tout de suite.
Voilà, donc, et au moment de Noël, on va parler de Pâques, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vivre le moment présent. Et quand on voit quand même la catastrophe qui nous attend et que nous vivons, et qu'il fasse si chaud aujourd'hui, ça ne préoccupe personne. Les gens ont envie de mettre des doudounes, je vois quand même des gens qui ont des doudounes alors qu'il fait quand même 22 degrés. Je me dis que franchement, il y a un réel problème. Et il y a un problème, je crois, mental. Je crois qu'on est ce qu'on mange, on est ce qu'on voit. Je crois qu'on alimente très très mal les gens. Les gens ont du mal à s'alimenter, hein, faute d'argent. On leur fait croire des choses. Et je pense qu'il faut qu'ils s'interrogent et que chacun d'entre nous qui peuvent, ceux qui peuvent aider, doivent aider l'autre. Excusez-moi, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans un monde de bisounours, mais ça me paraît indispensable.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez fait quelque chose qui relève du bon sens. Donc,
De l'urgence.
Effectivement, après, des associations, il y en a. Il y en a sur... J'allais dire, il y en a presque trop, parce qu'il faudrait peut-être une association unique qu'on appellerait l'association du bon sens, pour reprendre ce que vous proposez, et qui serait omnipotente sur tous les sujets.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi...
Mais ça s'appelle aussi, et c'est ce qu'a relevé Emmanuel Hirsch, ça s'appelle le gouvernement, puisqu'on est en démocratie, on élit des gens pour nous aider. C'est pour ça que je vous demandais si on n'était pas aidés.
Oui, mais le déficit aujourd'hui, c'est Emmanuel l'anticipation. Hirsch. Ce qui me frappe aujourd'hui...
Encore sur le carburant, ça a été
beaucoup
reproché.
Oui, mais dans tous les domaines. Et ouais. C'est là où il y a, pour chacun d'entre nous, le sentiment d'une grande fragilité. On a vécu pendant des années, quand même, la Covid-19. On a une culture...
On la vit encore. N'oubliez pas la phrase, il va falloir s'habituer à vivre avec le virus.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une culture qui s'est développée, des savoirs qu'on a acquis. On s'est approprié un certain nombre de connaissances. Ce qui me frappe aujourd'hui, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on n'anticipe pas. C'est-à-dire, on a le sentiment que, bon an, mal an, les choses reviennent et qu'on va se retrouver aussi démunis et aussi dans la défiance vis-à-vis de ceux à qui on fait confiance pour essayer de nous montrer un chemin. Vous voyez, vous parlez d'associations. Moi, ce qui me semble important, il n'y a pas que dans le domaine de la Covid, il y a dans le domaine aussi du terrorisme, dans beaucoup de domaines et des menaces qu'on vit aujourd'hui, c'est comment s'approprier en tant que citoyen un certain nombre de capacités d'être reconnu aussi par l'exécutif comme capable aussi d'assumer nos responsabilités. S'il n'y avait pas eu la mobilisation des invisibles de la République, s'il n'y avait pas eu les médias qui ont relayé un certain nombre d'initiatives, quelle aurait été l'efficacité de notre réplique par rapport à la Covid-19? Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'on a des moyens pour parer aujourd'hui la menace pandémique. On a des vaccins, on a une connaissance des médecins en termes de thérapeutique, il y a tout un ensemble d'approches en termes de prévention. Et la vraie question, c'est qu'on a le sentiment, c'est en tous les cas ce que je ressens, que le gouvernement est un peu piégé, parce que dans le contexte d'inquiétude actuelle, en ajouter une autre, et redonner, j'allais dire, une signification à ce que doit être ce combat, lui redonner, j'allais dire, en faire une préoccupation, alors qu'il y a tant d'autres préoccupations, dévoiler aussi une certaine forme d'impuissance aujourd'hui à décider de tout comme ça s'est fait. Je ne suis pas certain que demain, les gens acceptent le pass vaccinal comme ils l'ont fait, avec tout ce qu'on a eu comme information rétrospective. Donc on est, vous voyez, dans un moment où l'acceptabilité de mesures strictes, alors qu'il y a tellement de mesures aujourd'hui qui s'imposent à chacun d'entre nous, y compris d'aller pendant 3 heures pour chercher de l'essence, à un moment donné, il y a une saturation. Voilà, ce que je crains aujourd'hui, c'est une saturation, une exaspération, et peut-être le sentiment d'une insensibilité à ce qui doit être notre priorité.
Mais c'est quoi le remède?
Ben, le remède, moi je ne suis pas, vous avez remarqué...
Vous êtes là pour poser des problèmes,
le remède
aussi
pour moi,
apporter des solutions.
Non, mais je suis d'accord, mais vous avez remarqué que vous ne m'avez pas invité en tant que représentant du gouvernement, mais en tant que citoyen. En tant que citoyen, j'y aspire pas parce que c'est une responsabilité compliquée. Moi j'ai l'impression qu'il faut mobiliser les gens en les responsabilisant. Et donc on a des acteurs. Vous évoquez, je vous donne juste un exemple que je développe dans l'ouvrage, vous développez et vous évoquez ce qu'a fait Stéphanie et qu'elle continue à faire. La démocratie en santé, les associations de personnes malades qui ont des savoirs, qui ont des compétences, qui ont des réseaux. Comment aujourd'hui on leur donne une mission d'information, de sensibilisation? Si demain on a à nouveau des déprogrammations, bref, tout un ensemble d'éléments sont à prendre en compte. Deuxième point, comment aujourd'hui on permet à des professionnels de santé, pas uniquement d'ailleurs de santé, du sanitaire, du médico-social, d'être en capacité de faire face à ce que peut être l'éventualité de cette pandémie. Et puis, de quelle manière on va les uns et les autres être en capacité de s'approprier des savoirs? quelle campagne d'information aujourd'hui? On nous parle de vaccination, mais il n'y a pas que la vaccination. Et vous voyez le discrédit aussi qui s'est développé autour de la vaccination. Donc on est dans un contexte...
Ça on n'en parle pas assez. Mais voilà, on n'en parle pas assez. Le nombre de gens qui ont changé d'avis sur la vaccination, le nombre de gens qui se sentent très très mal après une troisième dose et ceux qui se sentent très très bien sans avoir été aucunement vaccinés, c'est vrai que ça, pour le coup, il y a un espèce de blackout là-dessus.
Et des gens qui réattrapent le Covid alors qu'ils sont vaccinés. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés qui réattrapent. C'est rare quand même. Moi, qui ai été vacciné contre le tétanos, j'adore bricoler. Je n'ai jamais rattrapé le tétanos alors que j'ai été coupé parce que je suis vacciné. Donc il y a une vraie question. Je crois que les gens sont complètement aveuglés. Et je pense aussi par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure. Je crois qu'un homme, ça s'empêche. C'est ce que disait Camus. On a tout accepté. On a accepté le pass sanitaire. On a accepté de rester enfermé. On a accepté de plus travailler.
Ça, c'est vrai. Les gens, acceptation. Des Français, on en a beaucoup parlé.
Même si les gens aujourd'hui se battent aux stations de service parce qu'ils sont très énervés, ils perdent beaucoup de temps, 2-3 heures de queue, et en fin de compte, il n'y a plus d'essence au moment où c'est leur tour. Mais ils acceptent. Moi, je trouve que les gens sont insensés, quoi. Ils sont incroyables d'acceptation.
Incroyable dans le bon sens.
Je sais pas.
Ou dans le mauvais sens.
Il y a un peu des deux. Parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Il faut dire stop à cette surconsommation. C'est aussi de la surconsommation sans arrêt, alors qu'il faudrait faire de la décroissance. Les gens sont comme des... Ça me fait vraiment souvent penser à des hamsters dans une roue. Ils ne savent plus où ils en sont.
C'est la grande démission. Il y a eu ce phénomène aux États-Unis où on a quitté son job, on a quitté un modèle. Et puis alors en France, à plus petite mesure, où tous ces gens sont partis des centres-villes, tous ces Français sont partis vivre à la campagne.
Oui, mais ils trouvent aussi beaucoup, en fin de compte, je ne dis pas qu'ils regrettent, mais ils trouvent que c'est quand même difficile de vivre à la campagne.
Vous vous rendez compte, c'est le phénomène des chevaux qui rentrent à l'écurie. Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que là où il y a du travail, c'est dans les grandes villes, et donc on y revient. Et c'est une fatalité économique et politique qui est terrible.
Oui, enfin, travailler dans les grandes villes, travailler à Paris, c'est de plus en plus compliqué. Je veux dire, il y a plus
alors travailler dans les territoires, c'est encore plus compliqué.
Oui, mais par exemple, les plombiers ont beaucoup de difficultés à se garer. Je parle également des magasins de proximité,
c'est
je parle
notre
des fleuristes.
Futur maire de Paris.
Oui,
j'aimerais
bien, moi, c'est la fonction. Et m'occuper des gens, prendre soin. Oui. Je veux dire, tous les magasins, je veux dire, les fleuristes ne peuvent plus livrer. C'est très difficile pour eux d'aller à Rungis, de revenir. C'est pareil pour les restaurateurs. Les théâtres, nous en souffrons. Les gens ne peuvent pas se garer. Enfin, je veux dire, alors, je ne dis pas qu'il faut prendre la voiture à tout crin. Il y a aussi, au niveau écologique, à faire des choses. Mais les lignes de métro,
oui,
pour la plupart, se ferment. Les bus, il y en a moins qu'avant. Enfin, je veux dire, rien ne tient. Il y a tout à remettre à plat, je crois, tout à fait calmement, et de réfléchir pour prendre soin des gens.
Calmement, je ne suis pas sûr qu'on puisse remettre tout à plat calmement.
Il faudrait.
Moi, je ne suis pas d'être uniquement dans la déploration et dans le constat un petit peu pessimiste. Je pense qu'on a besoin d'intelligibilité. Là, on est sur Europe 1, une chaîne de radio comme Europe 1 nous aide à rendre les choses un peu plus accessibles.
Bon, on réfléchit tous les trois ensemble.
Non, mais
oui,
c'est l'intelligibilité. On est face à la complexité. Et puis, il n'y a pas à se mettre la tête sous le sable. Qui a vraiment aujourd'hui des réponses par rapport à des défis comme ceux qu'on évoque aujourd'hui? C'est des défis qu'on a même du mal à cerner. Et ce cumul aujourd'hui de défis nous rend avec un sentiment d'une certaine impuissance. Donc la vraie question, vous parlez en termes de propositions concrètes, j'attends, par exemple, du milieu des intellectuels qui se mobilisent. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, vous l'avez constaté, avec la nouvelle loi du 30 juillet, donc, qui a mis fin à l'état d'urgence sanitaire, on a créé un nouveau conseil. Donc le COVARS, qui est un conseil de veille et d'anticipation des risques en termes de risques sanitaires. Quel type de parole, aujourd'hui, ce conseil tient, alors qu'on pourrait attendre, effectivement, du conseil qu'il donne un certain nombre d'éléments de connaissance, de compréhension et de mobilisation par rapport à une actualité comme celle qu'on est en train de pressentir. On est dans un moment, à mon avis, intermédiaire, où on se sent un petit peu dépossédé d'une capacité d'agir. Donc, pour moi, s'il y avait déjà une première urgence, c'est de l'intelligibilité et, j'allais dire, de la transmission de savoir. Et moi, j'attendrais, par exemple, du ministre de la Santé, qui s'occupe aussi de prévention, qu'il prenne une parole très, très claire vis-à-vis de l'opinion publique pour dire où on se situe par rapport à des éventualités qui sont effectivement, peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus inquiétant à prévenir. De quel élément va-t-on être doté au niveau de la mobilisation? Comment ça va se passer dans la vie quotidienne? Mais quel pourrait être l'impact de la Covid dans le contexte actuel de crise où cumule les défis? C'est-à-dire, ça se surajoute à un certain nombre de fragilités sociales. Donc, comment on va faire face? Comment on va hiérarchiser nos priorités? Comment on va argumenter la décision? comment on va faire passer à la société qu'il y aura des renoncements, peut-être des sacrifices à faire, quels vont être nos essentiels. Et pourquoi je suis tellement passionné par l'engagement de Stéphanie ? Parce qu'elle nous a dit, alors que ça paraissait à des ministres un petit peu inconvenants, qu'il y avait des essentiels dans une société, qu'il y avait des valeurs, et qu'on ne transigeait pas avec des valeurs. Le respect par rapport aux défunts, pour prendre un exemple précis. Vous voyez, ce qui est assez stupéfiant, on s'engage dans un débat sur la fin de vie. On nous annonce que probablement, dans quelques mois, on aura une loi qui sera favorable à l'euthanasie. Avant de parler de l'euthanasie, parlons de la vie au quotidien des personnes qui sont dans la
vulnérabilité.
Parlons des personnes en situation de vulnérabilité. Parlons des personnes âgées, comme tu l'as évoqué, Stéphanie, qui sont aujourd'hui dans des EHPAD, pour prendre exemple, ou qui sont au domicile, qui aspirent à d'autres préoccupations de notre société que de réfléchir aux conditions de leur mort médicalisée. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de défis. Et alors, quand vous regardez, moi, encore une fois, je regarde en tant plutôt qu'intéressé par les questions d'éthique. Je me dis, mais où est l'éthique ? Il y a des choix, quels sont en quelque sorte les arguments qu'on déploie. Alors, il y a des paroles, mais dans les actes, dans les faits, dans la décision. Donc, je dirais que c'est bien qu'on ait à refonder la démocratie aujourd'hui, qu'on ait à refonder le débat public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est face à des échéances, à des enjeux qui doivent solliciter de chacun d'entre nous notre envie de démocratie, qu'est-ce qui va nous donner envie de faire démocratie, de faire de vivre ensemble et pas de nous réfugier dans la solitude ou la singularité ou dans l'individualisme. Le grand risque aujourd'hui, c'est ce que je vois encore une fois en tant qu'observateur, mais citoyen observateur, c'est l'éclatement, le chacun pour soi, c'est-à-dire les individualismes, le corporatisme. Et je ne vois pas que ce soit très compatible avec la cohésion, la cohérence et la force d'une démocratie dont on a besoin aujourd'hui.
Ce que vous ne prononcez pas comme mot, c'est l'enjeu électoral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être là où vous avez rencontré des barrières, je parle aussi de votre engagement, Stéphanie Bataille, c'est qu'à un moment donné, au bout du bout du bout du bout de la chaîne, j'allais dire d'espoir, au bout de la chaîne, vous avez un ministre, et quel qu'il soit d'ailleurs, de n'importe quelle couleur politique, qui a une échéance électorale. C'est-à-dire qu'effectivement, il protège, ou il devrait protéger, la vie, la mort, la société, la démocratie, le monde dans lequel on vit.
L'école.
Et il y a aussi, bien sûr, et il y a, à la fin, il y a aussi, il se protège lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une échéance électorale avec un programme. Est-ce que ce n'est pas là le problème essentiel de notre politique et de la chose politique ?
Je vais vous faire une confidence, je ne devrais peut-être pas le faire.
Emmanuel,
j'ai lu un très beau livre, j'ai lu un très beau livre, celui d'Olivier Véran. Et donc, l'ancien ministre de la Santé nous parle d'aller au-delà des vagues. Ce livre raconte son quotidien au ministère avec des détails sur la réalité qu'il est amené à affronter. Ce qui m'a manqué, alors que j'y ai consacré un ouvrage qui va paraître, c'est l'intelligibilité de la gouvernance, c'est-à-dire les choix qui ont été faits au nom de quels critères, par rapport à quel type d'arbitrage et par rapport à quel type d'argumentation. On voit, et ça a été souvent reproché, qu'il y a eu un conseil de sécurité sanitaire qui se réunissait d'une manière confinée. Ce qu'on a besoin de savoir, si demain des décisions sont prises ou sont à prendre, au nom de quels critères, par rapport à quels objectifs, et en faisant valoir quels principes supérieurs. Voilà ce qui est important. Face à ces défis, on l'a évoqué tout à l'heure, Pierre Vino, moi je le développe dans l'ouvrage, jamais j'ai vu autant de démocratie en tant que moi-même, en tant que citoyen, que pendant ces temps de pandémie. C'est-à-dire la démarche des gens, c'était une démarche souvent en solidarité, en générosité, en inventivité, en adaptabilité, etc.
Oui, mais c'est une démocratie, est-ce qu'elle était en adéquation avec les pouvoirs publics ?
Si je termine, qu'est-ce qu'on a fait de toute cette richesse ? Voilà. Et je pense qu'on l'a saccagée. Quel type de retour d'expérience ? Qu'est-ce qu'on a fait au moment des élections ?
C'était un peu le sens de ma
question. Voilà la question. Et donc, peut-être qu'il y a aussi à penser qu'on a sacrifié peut-être un certain nombre de nos idéaux à ne pas vouloir tenir compte de ce qui s'est passé. Et la parole, par exemple, que tient Stéphanie, de nombreuses personnes, est une parole qui n'est pas audible aujourd'hui par des politiques.
C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Stéphanie Bataille. Elle disait un problème en chasse un autre.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est fait, le Covid, on passe à autre chose.
Exactement, et on passe à autre chose les gens qui ne vont pas bien, on passe à autre chose l'école va mal. Moi non, je ne passe pas à autre chose. Je passe à autre chose une fois que les choses sont réparées ou restaurées. Voilà, et aujourd'hui, j'ai évidemment une très grande pensée, parce que j'adorais mes professeurs, et j'ai encore mes professeurs qui viennent me voir quand je joue, ou qui viennent, à qui je téléphonerai régulièrement. Hein. Ce sont des enseignants, évidemment, qui n'exercent plus. Et voilà, ô combien qu'il est important de transmettre. Vous parliez tout à l'heure, Emmanuel Hich, de transmission. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et voilà, j'aimerais évidemment saluer aujourd'hui Samuel Paty.
Vous avez raison de le faire, Stéphanie Bataille. Vous êtes comédienne, directrice de théâtre. Comment est-ce qu'on fait pour... Ben oui, c'est aussi votre rôle de divertir, de sourire, de rire, avec tout ce qui vient d'être dit pendant cette demi-heure.
Ben moi, pour l'instant, je ne joue pas. J'essaie de faire une programmation avec Jean-Marc Dumonté qui fasse plaisir aux gens. Je crois que c'est aussi important, prendre soin et faire plaisir. Donc, on s'attelle à recevoir le mieux possible les spectateurs pour les couper un peu de leur quotidien. Et on leur tend la main pour leur proposer des spectacles tels qu'en ce moment, Jean-Paul Rouve, qui revisite la chanson française, car ça fait partie également de notre patrimoine. Il fait un très beau spectacle mis en scène par Jérémy Littmann avec Alain Lantier au piano. Et ensuite, on aura évidemment Gaspard Proust qui va être formidable dans la nouvelle pièce de Sébastien Thierry avec Jean-Luc Moreau et Brigitte Catillon. On essaye au maximum d'élargir et de trouver un public, pas uniquement dans l'art du divertissement, mais leur donner la possibilité de réfléchir, parfois de rire d'eux, parce que c'est très rare quand on se rend compte qu'en fin de compte, on parle de nous dans un spectacle, mais c'est vraiment trop bon de les voir rire et s'amuser, comme d'autres spectacles aussi à Paris, à l'affiche.
Et ils vous disent merci, les spectateurs. C'est ça aussi, parce qu'ils ont passé un bon moment.
Bien sûr.
Et il y a eu cette espèce d'espace-temps dans leur vie où ils ont peut-être oublié toutes ces choses pourtant font partie de notre quotidien.
Oui, c'est une sorte de pause. Et j'espère qu'on les nourrit et qu'ils en ressortent tout à fait heureux. On a aussi des spectacles très engagés, tels que le spectacle d'Andrea Bescon à partir du mois de janvier, qui reprend pour quelques dates, 13 dates exactement, Les Chatouilles au Théâtre Libre. Voilà,
terrible histoire, Les Chatouilles.
Hein. Oui, bien sûr, mais aussi...
Le film a été effectivement projeté il y a quelques années.
Tout à fait, et le spectacle...
Et c'est un problème de société.
C'est un problème de société aussi. Je crois qu'il faut parler de tous ces sujets qui nous entourent pour aller vers le mieux et l'espoir. Soyons courageux.
Merci Stéphanie Bataille de nous redonner de l'espoir. Merci à vous Emmanuel Hirsch. On lira en novembre Une éthique pour tant de crises aux éditions du CERF. Bonne soirée.